France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Vous ressentez un petit coup de mou, une baisse de régime, une fatigue prolongée? Votre humeur n'est pas au beau fixe et vous n'avez pas envie de vous lever le matin? Certes, le monde qui nous entoure ne donne pas ces temps-ci l'envie de le voir avec le sourire. Certes, il peut y avoir dans votre vie personnelle ou professionnelle des raisons de ne pas être en grande forme. Ajoutez à cela une météo peu favorable, un mois de l'année particulièrement morose. Et si on se tournait vers notre alimentation pour nous redonner un petit coup de boost, autrement dit pour nous redonner de l'énergie? Car oui, figurez-vous que l'énergie, ça se mange, et que comme le disait déjà le médecin chinois du 1er siècle Sun Si Miao, celui qui ne sait pas manger ne sait pas vivre. Bonjour Émilie Félix.
Bonjour Caroline.
C'est dans votre livre que j'ai trouvé cette citation du médecin chinois du 1er siècle. Vous êtes cuisinière, chercheuse en diététique énergétique, on va voir ce que ça veut dire, et vous êtes l'autrice de ce livre « L'énergie, ça se cuisine !» Point d'exclamation, c'est important, ça donne de l'énergie, chez Alba Michel. Et en face de vous, Jimmy Mohamed est avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Médecin, généraliste, animateur du MAC de la Santé sur France 5, vous avez succédé à notre désormais camarade Marina Carrère-Dancos. Auteur du best-seller comme Zéro contrainte pour maigrir, le dernier est paru il y a 10 jours, nous sommes début février 2025, « Je mange bien, je vais bien », paru chez Flammarion. Dites docteur, est-ce que c'est normal de se sentir à plat mi-février?
Oui, on doit ça notamment à la petite déprime saisonnière, la déprime hivernale. Et c'est vrai que durant cette période de l'année, on manque d'exposition au soleil et on ne se rend pas compte à quel point la lumière elle a une influence positive sur notre santé et notre santé mentale. On sait très bien que lorsqu'il fait nuit très tôt, le soir, que le soleil se lève de plus en plus tard en hiver, qu'on peut être susceptible d'avoir cette dépression saisonnière qui mime une vraie dépression en réalité, mais qui va s'améliorer avec les beaux jours. Donc, un peu de patience. D'ici quelques semaines, ça devrait commencer à aller mieux. Mais dans l'intervalle, peut-être que notre assiette peut elle aussi nous amener quelques rayons de soleil au travers des fruits et des légumes. Car oui, manger bien permet d'aller un peu mieux dans sa tête.
Et c'est le titre de votre livre. Je mange bien, je vais bien. Je voudrais quand même qu'on déculpabilise tout le monde, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Il se trouve que tous les deux, vous revenez de loin. Hein. Vous n'êtes pas des bons mangeurs comme il faut, avec une nourriture extrêmement variée tous les jours. C'est-à-dire que vous le dites, Jimmy Mohamed, vous avez été biberonné à la junk food pendant longtemps. Vous, Émilie, vous avez dû faire un régime forcé pendant un an à l'âge de 12 ans et ça laisse des traces. Donc, vous êtes tous les deux, de façon différente, des personnes qui reviennent de loin de ce point de vue-là. Jimmy.
Oui, pour deux raisons. La première, c'est une question économique et sociale. Plus jeune, j'avais pas beaucoup les moyens de bien manger, parce qu'il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Ça coûte quand même cher de bien manger, surtout que l'alimentation industrielle ne coûte pas cher. C'est pas vraiment des aliments qu'on mange, c'est des produits. Et puis avec le temps, j'ai commencé à gagner un peu plus d'argent et pour autant, je n'avais pas les connaissances et je ne savais pas à quel point bien manger pouvait me servir au quotidien. Et c'est pas une question de poids. Et souvent, on résume trop l'alimentation à être gros ou être mince. En réalité, ça va bien au-delà. Et petit à petit, en perdant un peu de poids, en fait, l'objectif était de mieux manger. J'ai perdu du poids et j'ai allé un peu mieux. Et donc, j'ai gardé cette philosophie de se dire que nous sommes ce que nous mangeons. Alors, parfois, quand on dit ça, on se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un côté naturopathie à l'excès? Mais en réalité, la science nous le démontre. Notre alimentation, elle influence nos humeurs, notre morale. Et on pourra parler de dépression et d'alimentation. Car oui, les patients qui souffrent de dépression peuvent aller mieux en mangeant mieux.
Notre alimentation, vous l'écrivez, Jimmy Mohamed, peut être notre pire ennemi comme notre meilleur allié. Vous, Émilie, Félix, vous allez plus loin. Vous allez chercher vraiment au cœur des aliments leur énergie. C'est ce que vous appelez la cuisine énergétique. Alors, il faut que vous nous en disiez un peu plus.
Alors, moi, je suis à la fois chef de cuisine et comparatiste en médecine de l'Antiquité. Je me suis intéressée à ce que la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, la médecine grecque, la médecine hébraïque, la médecine arabe parlait et évoquait quand il touchait le sujet de l'énergie vitale. Voilà, cette énergie qui nous anime. D'où vient-elle? Et c'est les ingrédients qui en sont porteurs. C'est-à-dire que pour nourrir notre énergie, eh bien, on va aller la sourcer ailleurs. Et donc, tous les ingrédients vont être porteurs d'une énergie, mais en fonction de la façon dont les animaux ont été élevés, de la façon dont les produits végétaux ont été cultivés, l'énergie ne sera pas la même. Et effectivement, il y aura une première étape qui consistera à aller chercher ce produit. Et ensuite, on va voir comment on le transforme, comment on le découpe, comment on le cuit, comment on l'assemble et comment on le déguste pour augmenter le potentiel d'énergie vitale que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains.
Donc, il y a des aliments qui ont des propriétés particulières, qui ont des caractères, qui ont une naturalité. Vous dites, un classement, par exemple, que vous donnez dans votre ouvrage, c'est qu'il y a des aliments qui sont refroidissants, d'autres qui sont réchauffants, et puis il y en a qui sont asséchants et d'autres humidifiants. Comment on les départage ?
Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est-à-dire que toutes les médecines de l'Antiquité avaient cette information-là. C'est-à-dire que j'ai essayé de chercher la piste de chaque ingrédient. Je me suis rendu compte que on parlait de guna en médecine ayurvédique, qu'on parlait de nature en médecine chinoise et qu'on parlait de qualité élémentaire, qualité primaire en médecine grecque et en médecine arabe. Et qu'en fait, chaque ingrédient avait donc cette capacité à jouer le rôle d'un aliment thermique presque, c'est-à-dire qu'il a la capacité de nous rafraîchir. Alors on a toujours notre température à 37, environ 37 degrés, mais c'est vrai que pour survivre à une canicule, eh bien finalement on va aller chercher des ingrédients rafraîchissants. Et quand il fait froid, au contraire, on va aller chercher des ingrédients réchauffants. Mais qu'ils ont aussi une autre dimension, c'est qu'ils ont cette capacité à générer des liquides à l'intérieur de notre corps, à nous humidifier ou à nous assécher. Et ça va être particulièrement utile en fonction du climat extérieur, mais aussi en fonction du climat intérieur. C'est-à-dire que quand on a de la fièvre, par exemple, mais on va aller chercher des ingrédients rafraîchissants pour faire baisser la fièvre. Et qu'on se rend compte aussi qu'en fonction des cultures, on va avoir des peuples qui vont manger des ingrédients davantage humidifiants, davantage asséchants.
Donnez-nous un exemple d'un aliment asséchant et d'un aliment humidifiant.
Alors, dans les aliments humidifiants, on va retrouver, par exemple, tous les produits laitiers. On va retrouver la majorité des alcools. On va retrouver une seule céréale, le blé moderne. Intéressant de savoir que les blés anciens, eux, sont plutôt asséchants comme toutes les autres céréales. On va retrouver les viandes grasses, donc principalement, effectivement, le bœuf, mais aussi le porc. On va retrouver la plupart des fruits, des poissons. Dans la zone neutre, on va retrouver tout ce qui va être l'univers des crustacés et tout ce qui va être asséchant, donc qui est particulièrement intéressant pour avoir une meilleure santé. Ça va être les légumineuses. Les céréales, les épices, les aromates, les rhizomes.
Et donc, vous donnez le classement dans votre ouvrage avec des tableaux, c'est vraiment comme un manuel. L'idée, c'est de dire qu'il y a des aliments qui nous fatiguent et qu'il y en a d'autres qui nous donnent de l'énergie. Ou est-ce que l'idée, c'est de dire, c'est pas forcément les aliments, c'est les associations, c'est les habitudes alimentaires, c'est les modes de cuisson qui agissent?
Oui, c'est pas l'aliment. Il y a aucun aliment qui va être néfaste. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'y a pas d'interdit, même. Si quelque chose vous plaît, la question, ça va être à quel moment de l'année, à quel moment de la journée, et surtout la manière dont vous allez le préparer. Est-ce que vous allez le préparer à la vapeur ou est-ce que vous allez le snacker et lui apporter donc une énergie stimulante, c'est-à-dire avec du feu, avec de la vitesse dans la cuisson. Et ça, ça va modifier un petit peu son énergie première.
Est-ce que vous pensez comme ça, Jimmy Mohamed ?
C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a cette médecine traditionnelle empirique qui peut être complémentaire de la médecine fondée sur les preuves. Et on a montré, si on prend l'exemple peut-être opposé, on observe que les jeunes, globalement, on le décrit, sont de plus en plus dépressifs. On dit que la dépression augmente notamment chez les adolescents, ils sont anxieux, ils ont des troubles du sommeil. Alors évidemment, comme tout, c'est toujours multifactoriel. On ne pourra jamais dire que tel ou tel aliment vous donnera telle maladie ou vous protégera de telle maladie. En revanche, ce qu'on a montré, c'est qu'à mesure qu'un jeune consomme des produits ultra transformés, de la junk food, il aura plus de risques d'être dépressif. Il aura plus de risques d'avoir des troubles anxieux et il aura plus de risques d'avoir des troubles du sommeil. Donc, quand nous disons « nous sommes ce que nous mangeons », c'est pour bien prendre conscience que l'aliment n'est pas simplement là pour être bon en bouche et nous ne sommes pas des oies qu'on va gaver. Cette alimentation du quotidien, elle aura une influence, qu'elle soit positive ou négative. Et si on s'intéresse à une maladie psychiatrique, une des plus fréquentes en France, la dépression, et qu'on s'intéresse à l'inflammation présente dans le corps des patients dépressifs, eh bien 40% des patients dépressifs qui souffrent d'une vraie dépression ont de l'inflammation dans le sang. Une inflammation que nous, docteurs, on ne peut pas doser. C'est-à-dire que si vous avez une dépression, que je vous fais une prise de sang, on ne verra pas grand-chose. Nos outils actuels ne permettent pas de faire de bons diagnostics sur l'inflammation latente. Et à l'inverse, dès lors qu'on se met à manger mieux, et très souvent on parle de régime anti-inflammatoire, j'aime pas tellement ce terme de régime anti-inflammatoire, c'est une alimentation qui est basée sur des fruits et des légumes tout simplement. Eh bien, il y a un institut qui s'appelle la Fondation Fondamentale, qui est dirigée par le professeur Marion Le Boyer, qui est une psychiatre qui exerce à l'hôpital Henri Mondor, et elle s'est rendue compte qu'en qu'en améliorant l'alimentation des patients, eh bien, on a moins de dépression et on soulage les symptômes de la dépression. Et je vous rappellerai que dans les épisodes de dépression léger à modéré, eh bien, les traitements médicamenteux ne sont pas là en première attention. Ils sont là en seconde attention. On doit faire de l'activité physique, de la psychothérapie, mais on devrait rajouter, nous, médecins généralistes, l'alimentation. Pour soulager les symptômes de dépression, il faut aussi bien manger. Et en fait, c'est tout un paradigme. On doit aussi accompagner les professionnels de santé de dire que oui, il y a des éléments, des arguments fondés sur la science et les preuves qui nous disent oui, si vous mangez mieux, vous irez mieux et même dans votre tête. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une tendance avec, encore une fois, c'est parfois, on peut flirter avec la naturopathie, avec ce côté négatif. Mais oui, effectivement, les aliments du quotidien vous permettent de mieux manger. On va prendre un exemple tout simple. Si vous prenez des aliments comme le brocoli, des légumes, des fruits, je donnerai pas un aliment précis, eh bien, vous allez fabriquer plus de sérotonine. La sérotonine, c'est ce qu'il nous manque notamment en cas de dépression. Et puis à l'inverse, si vous mangez des aliments inflammatoires, des produits ultra transformés, eh bien votre microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale, est altérée et ça favorise notamment la dépression. Donc en fait, c'est tout un équilibre qu'on doit avoir et on peut manger mieux et aller mieux dans sa tête.
Est-ce que c'est ça qu'on retrouve, Émilie Félix, dans vos recherches ?
Alors c'est intéressant ce que raconte Jimmy, parce que moi je me suis intéressée à ce que mangeaient les jeunes, notamment parce que je travaille auprès des établissements de soins de santé mentale notamment. Et quelle est l'alimentation de la jeunesse aujourd'hui ? Elle est très molle, par exemple. Et il faut savoir que les textures aussi ont une énergie. C'est-à-dire que plus on va manger mou, plus on va inviter l'univers du calme dans son corps. Et plus on va manger plutôt texturé, avec des textures croquantes ou croustillantes, et plus on va amener de l'énergie vitale dans son corps. Donc quand on regarde qu'aujourd'hui, l'alimentation, elle est plutôt, et c'est le goût préféré hein, des jeunes et des enfants, c'est d'aller vers le mou, voire le charnu, mais surtout l'univers du mou, bien finalement, voilà une énergie qui n'est pas dynamique, en fait. Voilà. Qui est très calmante. Donc, pour ramener de l'énergie dans sa cuisine, enfin, et du coup, dans son corps, ce qu'il faut, c'est aller chercher des textures, voilà, cuisiner vite et cuisiner au dernier moment. Parce que vous parliez tout à l'heure des produits ultra transformés où la cuisson a eu lieu il y a longtemps. Et on sait aussi que l'énergie vitale d'un ingrédient disparaît hein, quand il a été cuit il y a plusieurs heures. Donc, pour préparer un repas au dernier moment, c'est ça la garantie pour avoir de l'énergie dans son corps. Or, quand on va chercher des produits transformés, on sait bien qu'il n'y a plus d'énergie vitale. C'est très digeste. Donc, finalement, on va digérer facilement. Mais on n'aura pas cette énergie et cette antifatigue.
Il y a aussi, dans la journée, sans doute, hein, des moments où on mange. On dit souvent qu'il faut prendre un gros... L'adage, hein, manger le matin comme un roi, à midi comme un marchand et le soir comme un manant. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez tous les deux. Et puis surtout, à quel moment on mange du sucré, à quel moment on mange du salé. Il y a des choses qui nous fatiguent plus que d'autres. Il y a des moments de la journée qui nous fatigue plus que d'autres. On a l'impression qu'il faut manger à heure fixe, alors que vous dites tous les deux d'ailleurs, c'est très important de s'écouter. Pas d'injonction, pas d'interdit, pas d'heure imposée pour manger, pas de nombre minimal de repas.
L'heure des repas était imposée notamment par l'industrie et à la période où on s'est mis à travailler dans des usines pour imposer la pause à tout le monde au même moment et qu'on mange tous pour pouvoir reprendre le travail. Et en réalité, les heures à laquelle on mange ne sont pas du tout physiologiques, elles sont en rapport avec la société. C'est-à-dire qu'il faut manger...
Des constructions sociales.
Exactement. Il faut manger juste avant d'aller à l'école ou avant d'aller au travail. Il faut la pause déjeuner. Il faut qu'on fasse la pause tous ensemble. Il faut qu'à midi, tous les employés fassent leur pause pour qu'à 13h, on reprenne tous ensemble. Alors que finalement, on se rend compte que certains vont avoir faim vers 10h, d'autres vers 11h, d'autres vers 14h. Moi, il m'arrive de présenter le Mac de la Santé de 13h30 à 14h30 et de ne manger qu'à 15h. Je m'en porte très bien et je ne ressens pas la faim. Et puis, il y a des périodes, des moments où, oui, effectivement, j'ai envie de manger à midi. Sauf que la société est construite de façon à ce que les enfants, les adultes et même les personnes âgées, d'ailleurs, vous remarquerez que dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, on les fait dîner très tôt pour les coucher comme les poules à 18h parce qu'on manque de moyens et ça arrange tout le monde. Or, nos besoins physiologiques ne disent absolument pas que nous devons prendre 3 repas par jour. Pour certains, ça va être 1 repas par jour, pour certains ça va être 2, pour certains ça va être 4, et puis parfois ça va varier. Il y a des moments de la vie où on va manger un peu plus, et des moments de la vie où on va manger un peu moins. Sauf qu'on a normé notre alimentation de telle sorte qu'on fasse tous exactement pareil, à la même heure ensemble. Et puis il y a cette petite musique du lobby de l'industrie agroalimentaire qui nous pousse à consommer plus, le matin sucré, les céréales, et on ne se rend pas compte à quel point les publicités, même si on pense y échapper, elles ont une action inconsciente sur notre cerveau et sur nos choix qu'on fait notamment au supermarché.
Typiquement, vous l'écrivez, Jimmy Mohamed, manger du sucre au petit déjeuner, ça fatigue quelques heures plus tard.
Ça fait plaisir en bouche, c'est vrai que c'est bon. Moi, vous me donnez un pain au chocolat le matin, oui, j'ai plaisir à le manger, mais j'ai décidé de voir l'alimentation différemment. Certes, j'ai ce plaisir hédonique qui va durer peut-être 15 minutes. Mais sauf qu'au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, on l'a tous expérimenté, on a ce petit creux, on a faim et donc on manque d'énergie. Donc moi, à titre personnel, je ne prends plus de petit déjeuner le matin et je peux tenir jusqu'à 15-16 heures sans ressentir la faim, ce qui permet aussi de distinguer deux choses. Ai-je faim ou ai-je envie de manger ? C'est pas tout à fait pareil. Moi, oui, le matin, je pourrais avoir envie de manger. Mais est-ce que j'ai faim ? Non, puisque j'ai appris me réapproprier tous mes mécanismes de faim et de satiété. Et malheureusement, plus on mange et plus on les perd. Et on se met à manger, à s'habituer, sans oublier qu'on a une horloge biologique, une horloge qui s'habitue à nos prises alimentaires. Donc si tous les matins, vous mangez à 8h du matin, à 8h moins 10, votre foie va commencer à s'activer pour dire « Ouh, on va recevoir des calories, il va falloir travailler ». Et mécaniquement, vous vous mettez à avoir faim, alors qu'en réalité, en marquant une pause, vous dites « Bah finalement, ce petit déjeuner, j'en ai peut-être pas besoin ».
Émilie Félix.
Alors, un autre point commun que j'ai trouvé dans toutes ces médecines de l'Antiquité, c'est qu'elles parlent de profil, de nature en fait. On parle du yin ou du yang en médecine chinoise, on parle des doshas en médecine ayurvédique, les pittas, les kaphas, les vatas. On parle également de la même chose hein, dans la médecine humorale grecque, où on va avoir des profils, des colériques, des lymphatiques. Et puis, plus récemment, on trouve les chronotypes, où on parlait des ours, des lions et des loups. Et en fait, l'objectif au départ, c'est de se dire, mais dans quelle catégorie est-ce que je me trouve ? Parce que si on reprend la dichotomie yin-yang, qu'on retrouve en Chine, on voit que les yin sont plutôt des personnes qui vont se lever tôt et se coucher tôt, qu'elles aiment bien la régularité et qu'en général, elles ont faim dès le matin et qu'elles ont plutôt une appétence pour les produits végétaux, hein, pour tout ce qui va être la cuisine végétale. À l'opposé, et on dit d'ailleurs des yin que c'est plutôt les héritiers des populations sédentaires, des agriculteurs, alors que le yang, c'est complètement différent. Le yang, lui, il se lève tard, il se couche tard, il mange quand il a faim. Il a plutôt un profil...
Mais ça, c'est des grandes catégories.
Voilà,
pour dire, en fait, chacun est différent.
Et quand le médecin chinois vous accueille, la première chose qu'il va vous poser, c'est tout un tas de questions, mais la même chose pour le médecin ayurvédique, pour définir dans quelle catégorie vous êtes. Et bien sûr, il y a des mineurs et des majeurs, mais quelque part, vous comprendrez qu'il y a des enfants qui vont se lever le matin, ils auront faim et d'autres pas. Or, la plupart des parents ont plutôt tendance à penser que l'enfant doit petit déjeuner avant d'aller à l'école. Alors que, en fait, il faudrait pour aller peut-être la moitié d'entre eux avoir un snack dans le cartable et pouvoir le déguster à la pause de 10-11 heures.
C'est difficile parce que tout ça ne nous dit pas comment chacun doit manger, puisque chacun doit manger différemment en fonction de ce qu'on est, de comment on vit et de ce qu'on aime. On va essayer de réfléchir à ce qu'on met dans l'assiette, à quel moment et comment on compose un repas.
Allô ?
Bonjour docteur, la Noiraude à l'appareil.
Bonjour la Noiraude, qu'est-ce qui ne va pas encore ?
Docteur, il paraît que mon lait a un drôle de goût.
Ah bon ? Quel goût ?
Un goût de vache, ça paraît normal, non ?
Quand on parle de goût de vache, Noiraude, on veut dire que votre lait a un goût un peu fort qui ne plaît pas à tout le monde.
Ils n'ont qu'à boire du lait de chèvre. Ils verront.
Ne soyez pas agressive, la Noiraude. C'est simplement une question d'alimentation. Qu'est-ce que vous mangez actuellement ?
De la pulpe de betterave, un peu de foin.
Vous n'êtes pas raisonnable, la Noiraude. Je vous ai dit de manger beaucoup de crudités. Il vous faut des vitamines, du verre. Mangez de l'herbe.
L'herbe n'a plus le même goût qu'autrefois avec leurs engrais chimiques.
Allez. Avouez la Noiraude que vous n'avez pas le courage de vous baisser.
Vous avez déjà mangé de l'herbe, docteur ? Alors qu'est-ce que vous en savez ? Venez donc brouter un jour avec moi et on en reparlera.
La Noiraude, série pour les enfants diffusée dans les années 70-80. Vous n'étiez pas encore né, Jimmy Mohamed, sur Antenne 2. Manger de l'herbe, la Noiraude, donc cette vache célèbre pour les enfants. Alors, l'idée, c'est de savoir comment, d'essayer de comprendre comment on compose un repas selon les saisons, selon la journée, selon qui on est. Vous, par exemple, Jimmy Mohamed, vous vantez les mérites, les vertus du régime crétois, du régime méditerranéen. Pourquoi et d'abord, de quoi s'agit-il ?
Le régime méditerranéen, c'est un régime qui est riche en fruits et en légumes, tout simplement, très pauvre en viande rouge, riche en matières grasses, notamment de l'huile d'olive. Et on a ce paradoxe...
Parce que le gras peut être bon.
Voilà, on a trop diabolisé le gras en se disant avec quelque chose de presque intuitif. Lorsqu'on parle de maladies cardiovasculaires, on parle de plaques de cholestérol dans les artères. Donc le gras donne du cholestérol qui se retrouve dans les artères. Sauf que c'est un lien qui est faux en réalité. Donc le gras protège des maladies cardiovasculaires, mais le bon gras. Donc c'est des fruits et des légumes, du bon gras avec de l'huile d'olive, du poisson, de la viande plutôt blanche, des oléagineux, donc des noix, des amandes, des noisettes, un petit peu de laitage, mais pas tant que ça. Et on limite évidemment la place au sucre et aux produits ultra transformés qui ont quasiment pas du tout leur place en réalité. Et on s'est rendu compte que ce mode de vie, presque on devrait parler de mode de vie méditerranéen plus que de régime, eh bien c'est peut-être celui qui a fait le plus preuve de son efficacité pour toutes les maladies, quelles qu'elles soient. Moins de maladies cardiovasculaires, moins de risques de maladies d'Alzheimer, moins de risques de dépression, moins de risques d'arthrose, moins de risques dans certains cancers. Bref, c'est le régime vers lequel on devrait tous tendre et qu'on fait naturellement. Vous aurez peut-être remarqué, quand on est en vacances et qu'on a un peu le temps, bien qu'est-ce qu'on fait ? On prend le temps de cuisiner, on prend le temps d'aller au marché, on prend le temps de déguster en famille ou avec des proches. Et tout d'un coup, l'alimentation, elle a une place différente. Et l'objectif serait de se dire que l'alimentation n'est pas une variable d'ajustement. Or, au cours d'une journée, on mange quand on peut, à la va-vite, alors qu'elle a une place centrale et
majeure. C'est très important de manger assis, c'est très important de bien mâcher. Vous dites que tous les deux d'ailleurs, que la façon de manger est cruciale. Est-ce que ce régime méditerranéen, Émilie Félix, correspond à l'équilibre que vous vantez dans votre ouvrage avec les cinq grandes familles d'ingrédients, c'est-à-dire cinq saveurs, cinq couleurs, cinq textures, cinq familles de cuisson? Ça devient très compliqué, hein, je dois dire, pour manger deux ou trois fois par jour comme ça, ça devient compliqué.
Pas si compliqué que ça, parce qu'on se rend compte quand on regarde son plateau ou son repas que finalement on coche pas mal ces cases-là. Je me souviens au Japon, mon professeur de cuisine me disait, Émilie, est-ce qu'il manque une couleur dans le repas que tu viens de constituer? Est-ce que tu as du vert? Parce que le vert, c'est l'énergie naissante. Est-ce que tu as du noir? Parce que ça tonifie. Et tous les ingrédients noirs ont cette capacité à tonifier. Des ingrédients noirs, c'est souvent ceux qu'on a du mal à retrouver, hein. Tout ce qu'on va retrouver, comme par exemple les champignons, mais aussi les fruits secs, ou alors certains oléagineux, les algues. Est-ce que tu as du rouge? Parce que le rouge, c'est dynamisant. Est-ce que tu as du blanc? Parce que c'est intériorisant, harmonisant. Et est-ce que le jaune est présent? Parce que c'est lui qui va réguler. À quel moment de la journée tu prépares ton repas? Si c'est le midi, tu as besoin de beaucoup d'énergie parce que derrière tu as une longue journée de travail. Si tu es à l'école, tu dois mémoriser tes cours et puis peut-être aussi réfléchir, peut-être aussi créer. Donc à ce moment-là, il te faudra des textures plutôt dynamisantes, du croquant, du croustillant. Le soir, tu prépares déjà ton sommeil. Donc tu vas aller chercher vers l'univers du calme. Tu vas chercher les textures moelleuses, fondantes. Est-ce que c'est vraiment ça le constituant principal de ton repas du soir? Est-ce que tu vas retrouver différents ingrédients? On en parlait tout à l'heure, l'importance de retrouver, et le régime méditerranéen coche cette case-là, des céréales, des légumineuses, des protéines animales et surtout beaucoup de légumes. La part de légumes, c'est vraiment de légumes
ça
frais.
Ça, vous incitez tous les deux, hein, les légumes frais. Oui.
Les légumes frais, de saison, si possible, biologique, pour avoir cette énergie vitale dont je vous parlais tout à l'heure, hein. C'est l'énergie de la terre. Il faut que le sol soit vivant pour que l'ingrédient soit vivant.
Alors, vous dites de saison, Émilie Félix. De fait, c'est important parce que vous expliquez que les produits de saison viennent compenser nos faiblesses et que certains aliments, qui sont consommés à certains moments de l'année, viennent agir sur nos organes qui sont à ce moment-là de l'année plus fragiles qu'à d'autres moments de l'année. Par exemple, en hiver, il faut prendre soin de ses reins. Vous dites, alors je parle aussi sous le contrôle du médecin qui nous écoute. Hein. Vous dites, il faut prendre soin de ses reins. Donc, par exemple, la soupe de potiron, c'est une recette extrêmement bien adaptée en hiver.
Tout à fait, parce qu'en fait, tous les ingrédients ont ce qu'on appelle en médecine chinoise un tropisme, une destination privilégiée dans le corps. On connaît les vertus de plein d'ingrédients. Hein. Les pharmaciens faisaient bon usage des racines séchées, des herbes aromatiques, des épices. Mais il faut savoir que tous les ingrédients qu'on peut manger ont ces qualités-là. Et que le corps va vivre au cours de l'année une évolution. Alors, l'hiver, effectivement, c'est les reins qui sont plus fragiles, les reins qui sont le siège de l'énergie vitale, de l'énergie innée. Et quand arrive le printemps, puisque c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, hein, depuis le 4 février, nous sommes rentrés dans le printemps lunisolaire.
Ah bah, c'est une nouvelle, ça.
Voilà. Donc, c'est pour ça.
De vivre encore, mais bon.
C'est pour ça, tout à fait, quand vous disiez en préambule qu'on était fatigué et qu'on est en train de passer cette nouvelle phase, c'est que c'est la naissance de l'énergie nouvelle, la naissance du yang nouveau. Et que donc on va venir soutenir l'énergie du foie à ce moment-là. Pour cela, on va aller chercher des ingrédients verts, on va aller chercher tout ce qui va permettre de nous faire une détox naturelle, comme la saveur acide. Donc le petit jus de citron le matin, par exemple, est tout à fait adapté à cette saison, alors qu'il faudra l'éviter en hiver. On ne fait pas sa détox en hiver, on la fait au printemps.
Ah, imaginons un petit déjeuner avec un verre d'eau tiède pour commencer, un jus de citron, puis après un jus de carotte, du gingembre, de l'avocat. Moi, il me manque quand même l'odeur du pain grillé. Il y a un moment où on oublie le plaisir avec tout ça, non, Jimmy? Mohamed.
Non, mais le plaisir, et c'est vrai qu'on se dit, mais je dois supprimer des choses, et moi je serais plutôt partant de garder ce petit plaisir coupable et rajouter des bonnes choses à côté. Plutôt que diaboliser ce morceau de pain, bah peut-être qu'on a besoin de manger un tout petit peu moins de pain, donc on peut en manger, parce
qu'on ne
peut pas se retirer le plaisir. Même chose pour les enfants, au goûter, tant pis, je ne suis pas favorable à ça. Mais s'ils aiment un ou deux petits gâteaux industriels, donnez-leur ce gâteau, je sais que c'est pas bon, mais il faut être pragmatique. Et à côté de ça, rajouter un fruit, rajouter un produit laitier. Comme ça, on aura, entre guillemets, le plaisir coupable, mais qu'on aura enrobé de bons aliments. De la même manière que souvent, on fait un choix un peu absurde entre entrée plat ou plat dessert. Moi, je préfère entrée plat dessert. Lorsque vous faites plat dessert, vous allez perdre l'entrée qui apporte des fibres. Ces fibres, elles vous permettent de mieux digérer. Donc, n'allez pas simplement vers le plat dessert ou l'entrée plat. Faites les trois. Dites-vous que vous avez peut-être besoin de trois plats, trois couleurs différentes. Et tous ces aliments, vous les trouvez en réalité au marché. En fait, tout est présent dans la nature. Et je terminerai avec cet élément en disant qu'en hiver, on a des légumes plus terreux, plus riches en fibres, qui apportent de la satiété, du réconfort. Et plus à mesure qu'on arrive au printemps, on a des aliments qui sont de plus en plus riches en eau et qui vont s'adapter notamment à la météo. Donc, il faut aussi se servir de ce que la nature nous offre pour adapter notre alimentation. Et d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, oui, on mangera peut-être un peu plus léger, mais avec toujours autant de plaisir.
Cette notion de plaisir dans la cuisine santé est un des éléments qui fait qu'elle marche ou elle ne marche pas. Si le plaisir est là en embuscade, ça va bien. Si il est absous de cette démarche, il est impossible de faire des régimes qui sont des régimes punition, bien évidemment. Donc le plaisir reste cette espèce de bonheur qu'on peut avoir deux fois par jour et qui nous rend heureux.
Michel Guérard, pape de la cuisine, plaisir, santé, avec son institut. Vous avez été, Émilie Félix, formée en cuisine en France par les équipes de Michel Guérard. Donc ça doit vous parler quand même.
Oui,
ce plaisir.
Le plaisir non coupable existe. Je reviens juste très rapidement sur cette notion du dessert et de la pâtisserie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'à la fin d'un repas, un dessert peut avoir des vertus digestives. Moi, j'y travaille beaucoup avec mon pâtissier. Quand on crée des desserts, on met des eaux de fleurs, on met des épices. Dans la médecine arabe de l'Antiquité, quand on croquait dans une orange avec un peu de cannelle, on savait que ça venait laver les dents et que c'est pour ça qu'on n'allait pas retourner au buffet derrière. Et puis on recommandait de prendre des oléagineux avec du miel qui aidait à digérer les légumes et les fruits crus, alors que la pâtisserie levée était davantage pour le moment du thé.
C'est intéressant quand même de savoir si on les mange à 4 heures le flan ou si on le mange à la fin du repas. Ça aussi, c'est compliqué quand même. En vous suivant l'un et l'autre, on voit à quel point c'est complémentaire. Je voudrais juste terminer avec une question pour vous, Jimmy Mohamed, sur le rôle qui est le vôtre, aussi bien en termes d'éducation avec le MAC de la santé que le rôle du médecin. Parce que vous dites que quand vous allez chez vos patients, parce que vous êtes aussi SOS médecin, comme on dit, quand vous allez chez vos patients, vous regardez leur frigo, vous regardez ce qu'ils ont sur la table.
C'est vrai que je m'invite chez les gens et c'est vrai que je vois ce qui se passe et je vois ce qu'il y a sur la table, je vois ce qu'il y a dans les frigos, je vois ce qu'ils mangent parce qu'on peut être appelé à l'heure du déjeuner. Et très souvent, je me dis, ah, il y a quand même un lien évident entre certaines pathologies et l'alimentation, le mode de vie. Quand on dit nous sommes ce que nous mangeons, l'idée n'est pas de vous rendre coupable, mais de se dire que peut-être des changements simples du quotidien vous permettront d'aller un peu mieux et qu'il n'est jamais trop tard pour mieux manger. C'est donc, peut-être ça le message à retenir.
Donc vous faites des ordonnances alimentaires ?
On pourrait peut-être imaginer dans le futur faire des ordonnances alimentaires en cas d'arthrose, quoi manger, en cas de dépression, quoi manger, sans se passer de la vraie médecine traditionnelle, c'est-à-dire qu'on a peut-être aussi besoin parfois de médicaments, mais c'est complémentaire, l'un peut aller avec l'autre.
Il y a la médecine traditionnelle moderne, contemporaine, et il y a la médecine traditionnelle antique, arabe, chinoise, il y en a dans tous les pays, et vous êtes allé les chercher, Émilie Félix, pour écrire ce livre, qui est très très intéressant, qui est un manuel d'utilisation avec des conseils simples, sur mesure, pour une alimentation anti-fatigue. L'énergie, ça se cuisine, Cherche Midi, pardon, et chez Flammarion, on trouve le vôtre, docteur Jimmy Mohamed. Je mange bien, je vais bien. C'est très important de lire l'un et l'autre. Merci à tous les deux d'être venus dans Les Bonnes Choses ce midi. Mangez bien, plein d'énergie. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur notre site franceculture.fr pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne. Rendez-vous sur l'application de Radio France avec la petite équipe des Bonnes Choses, c'est Amboutata, Taïsia Froidure à la réalisation et aujourd'hui à la prise de son, Anthony Thomasson. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.